Bon réveil, belle journée, France Inter, il est 7h.
France Inter, Hélène Roussel. Le 7-9.
Le journal Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
Une nuit de la Saint-Sylvestre marquée par des violences dans les grandes villes comme dans les petites communes. Le grand désarroi des habitants de ces quartiers sensibles où des centaines de voitures ont été incendiées. Reportage à Nantes dès le début du journal. Dans le reste de l'actualité, Agnès.
29e jour de grève dans les transports et la SNCF promet une amélioration en fin de semaine pour les retours de vacances. Une alliance gouvernementale inédite en Autriche entre conservateurs et écologistes. Rapide pour la restauration, mais très lent pour la mise en place du tri sélectif. Les fast-foods ne respectent toujours pas la législation en France. Et puis un avant-goût des séries qui feront cette année 2020.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50, Alexandra Ben Saïd, vous serez avec...
Avec la romancière Constance Debré pour son nouveau livre Love Me Tender. C'est une formidable dynamiteuse qui revient avec sa quête d'identité, de liberté et puis cette fois des questions pas faciles sur l'amour maternel.
Et puis à 8h20, dans le grand entretien de la matinale, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédéric Vidal. Le salaire des enseignants, celui des chercheurs, la précarité étudiante. Chers auditeurs, vous pouvez appeler dès maintenant pour poser vos questions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et sur l'application mobile de France Inter.
France Inter.
Le bilan s'est alourdi au fil des heures. Hier, le réveillon de la Saint-Sylvestre a une nouvelle fois été marqué par des violences urbaines qui ont touché tout le territoire. L'Alsace d'abord, avec plus de 200 véhicules incendiés à Strasbourg. C'est le double de l'année dernière. Des policiers et des gendarmes blessés par des tirs de projectiles. Des scènes de guérilla largement relayées sur les réseaux sociaux. Des voitures brûlées aussi à Toulouse, Nantes, Vénissieux et Villeurbanne. Mais aussi dans des communes réputées plus tranquilles comme Saint-Dié-des-Vosges, Soyeux dans la banlieue d'Angoulême ou encore Limoges. Première victime de ce fléau du nouvel an, les habitants des quartiers en difficulté. Reportage de Victoria Coussa à Nantes.
Devant la carcasse de sa voiture calcinée qui sent encore le brûler, garée comme toujours au pied de son immeuble, Robert est désemparé.
Ça fait mal, c'est pas de l'argent trouvé dans l'argent facile comme eux le font, l'argent de la drogue par-ci par-là. Et moi, je travaille pour arriver à 1400, 1300, je travaille tous les jours, je me réveille le matin. Et quand je vois ma voiture comme ça, ça... Je suis révolté en fait.
Ce père de famille travaille très tôt le matin à l'usine et il ne sait pas comment faire maintenant.
Il n'y a pas de transport. En plus, le matin, je me réveille à 3h45 pour se préparer, quitter la maison. Je quitte la maison à 4h30. Et là, je sais quoi, même si je dois appeler quelqu'un, me prendre... C'est l'opposé de tous mes collègues.
Sur les places d'à côté, il reste les traces de suie des autres épaves de la nuit du Nouvel An ramassées par les dépanneuses. Karima, descendue admirer le feu d'artifice avec ses enfants, a tout vu.
C'était beau au début et ça s'est mal terminé. Ils sont sortis de nulle part. On ne sait pas d'où ils sont sortis. Même pas cagoulés, rien. Ils étaient de là plus pour foutre le bordel qu'autre chose. Pour moi, c'était la guerre hier. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Depuis les émeutes, depuis tant d'années. C'était un jour de l'an, pas comme d'habitude.
En période de fête, certains habitants disent même fuir le quartier pour sauver leur voiture.
Reportage de Victoria Coussa à Nantes. Un lourd bilan humain également avec la mort de 3 personnes durant ce réveillon. Un homme de 30 ans dans le Bas-Rhin tué par l'explosion d'un pétard de type mortier. À Paris, un homme a fait une chute mortelle depuis le Pont Royal et puis à Montpellier. Une jeune femme de 22 ans a été tuée dans une voiture près d'une discothèque. Un de ses amis a avoué être l'auteur du coup de feu. Un tir a priori accidentel dans un contexte très alcoolisé.
Y aura-t-il des trains cette fin de semaine pour les retours de vacances?
Au 29e jour de la grève contre la réforme des retraites, la SNCF prévoit aujourd'hui un TGV sur 2 en moyenne, un intercité sur 4, 5 TER sur 10 et 3 transiliens sur 10. La situation devrait s'améliorer en fin de semaine pour permettre à tous de rentrer à bon port. Le détail avec Fabien Cazot.
La SNCF promet 2 TGV sur 3 en circulation dès demain vendredi jusqu'à dimanche. C'est sensiblement mieux que les prévisions pour aujourd'hui. Priorité sera donnée au retour des principales régions où les voyageurs sont allés passer les fêtes. Objectif, assurer les trajets retour qui avaient été promis au moment des départs la semaine dernière. Le trafic sera quasi normal pour les gares de Marseille et de Lille. Il s'améliorera progressivement jusqu'à dimanche sur l'axe Paris-Grand Est, vers Nancy, Metz, Strasbourg et le Luxembourg. En revanche, la circulation des trains sera plus compliquée sur l'axe Atlantique. Attention pour les voyages en TER. Là, le trafic sera loin d'être revenu à la normale d'ici dimanche. La SNCF invite les voyageurs à s'assurer que leur train régional est maintenu prévenus la veille du voyage à 17h, notamment sur les applications et le site Oui SNCF.
Et à Paris aujourd'hui, une seule ligne de métro restera complètement fermée, la 7 bis. Les autres fonctionnent, mais quelques heures seulement, en général aux heures de pointe, avec un trafic ralenti et certaines stations restent fermées. Côté bus, 3 sur 4 en moyenne en circulation aujourd'hui dans la capitale. Et en plein conflit sur la réforme des retraites, une promotion du nouvel an qui n'est pas passée inaperçue hier, celle de Jean-François Cirelli, patron du fonds BlackRock France, élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur. Ce fonds américain gère près de 7000 milliards de dollars d'actifs dans le monde. Les deux tiers concernent l'épargne retraite, de quoi alimenter les soupçons de collusion. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Les fast-foods vont-ils enfin se mettre au tri sélectif? Depuis hier, en principe, McDonald's, Starbucks, Paul et autres Burger King ont pour obligation de mettre en place des poubelles de tri dans 70% de leur établissement. Ce sera 100% l'an prochain. La filière produisant à elle seule 180 000 tonnes de déchets chaque année, mais la mise en place semble encore bien chaotique, comme a pu le constater Hélène Chevalier.
Dans ce fast-food situé à proximité du musée du Louvre, les boîtes en carton avec des restes de hamburgers, les sachets de frites et les gobelets en plastique finissent dans la même poubelle. Ici, pas de tri sélectif en salle, confirme cet employé.
Non, pas encore. Donc déjà, notre tri à nous, déchets alimentaires et les cartons, on les trie déjà, mais pour les clients, pas encore.
En face, dans une grande chaîne américaine de café, une poubelle de tri a été discrètement placée juste à côté de la sortie. Elle est censée recueillir dans des compartiments différents les restes de nourriture, le plastique ou le carton. Mais quand on regarde justement parmi les biodéchets...
Là, par exemple, il y a du plastique et du carton dedans.
Combien de restaurants sont déjà passés au tri sélectif? Aucune enseigne ne communique de chiffres. La plupart font même l'autruche. L'obligation date pourtant de juillet 2016, s'agace Laura Châtel de l'association Zero Waste France.
Le tri, c'est quand même quelque chose qui s'est installé peu à peu dans tous les foyers français depuis près de 20 ans. On en est encore à développer très progressivement et timidement le tri dans les enseignes de restauration rapide. En plus, on n'est même pas sûr à l'heure actuelle que 70% des restaurants sont effectivement couverts.
Afin de s'assurer que les enseignes respectent bien leurs engagements, le ministère de la Transition écologique leur a demandé de fournir d'ici à la fin du mois la liste des restaurants passés au tri sélectif.
Reportage d'Hélène Chevalier. Une année record pour Airbus qui reprend à Boeing la place de premier constructeur aéronautique mondial. Airbus a livré l'an dernier 863 appareils, une hausse de près de 8% par rapport à 2018.
7h07, vous écoutez France Inter, la suite du journal avec cette alliance inédite pour diriger l'Autriche.
Une coalition entre les conservateurs et les écologistes, c'est effectivement une première, d'autant plus surprenante que le parti de Sebastian Kurz était jusqu'ici allié avec l'extrême droite. Mais cette coalition est due au très bon résultat des Verts lors des élections législative il y a 3 mois. Correspondance dans la région de Ludovic Piétenu.
Ils promettent à la fois de protéger le climat et les frontières, de réduire les impôts tout en rendant la fiscalité plus écologique. Voilà deux lignes extraites du contrat de coalition signé tard hier soir qui scellent cette alliance entre des conservateurs à la ligne politique très libérale et des écologistes ancrés à gauche qui prennent ici la place historiquement dédiée aux sociodémocrates depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour empêcher un retour de l'extrême droite au pouvoir, les écologistes portés par un résultat record de près de 14% ont donc fait un choix pragmatique. Ils ont pris le temps nécessaire, 3 mois, pour discuter avec leur futur allié sur des sujets comme l'immigration ou la politique économique. Le chef de file des conservateurs a qualifié cet accord d'excellent. Nous sommes parvenus, disait-il hier soir, à réunir le meilleur des deux mondes. Ce tandem n'a rien d'évident, mais dans la durée, les Verts misent sur la démocratie parlementaire qui oblige chaque partenaire à des compromis. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Des perquisitions en cours au domicile japonais de Carlos Ghosn, selon la chaîne de télévision NHK. Le Japon sidéré par la fuite de l'ex-PDG de l'alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn, qui devrait prendre la parole publiquement mercredi prochain depuis Beyrouth. La mort d'un ressortissant français détenu par les services de l'immigration américaine. Âgé de 40 ans, né en Angola, l'homme est mort dimanche dans un hôpital du Nouveau-Mexique. Une autopsie est en cours pour connaître les raisons de ce décès. En bref encore, acculé par la justice, Benjamin Netanyahou demande au Parlement israélien de lui accorder l'impunité. Parlement qui ne pourra examiner cette requête que dans plusieurs mois après les prochaines élections législatives prévues début mars. Retour en France avec le jugement attendu aujourd'hui au tribunal correctionnel d'Angoulême dans l'affaire Lali. Lali, c'est le prénom de cette petite fille trisomique morte il y a 5 ans à Périgueux, poussée par la fenêtre par l'un de ses camarades dans une classe CLIS de l'école du Sacré-Cœur. L'institutrice qui était en charge des enfants au moment du drame est poursuivie pour homicide involontaire. Valérie Dejean.
Seule mise en cause dans ce dossier, l'enseignante a reconnu dès le début avoir laissé ses élèves atteints de troubles psychologiques sans surveillance quelques petites minutes, 4 ou 5 pas plus, mais un temps suffisant pour que le petit garçon pousse Lali, 8 ans, par la fenêtre. Le 10 décembre dernier, devant le tribunal, l'institutrice a assumé donc sa part de responsabilité, tout en regrettant l'absence à la barre d'une institution, l'aide sociale à l'enfance, qui sous couvert du secret professionnel ne lui avait pas signalé les antécédents du petit garçon. En 2013 déjà, 2 ans avant la mort de Lali, il avait poussé une petite fille par-dessus la rambarde du balcon de son assistante maternelle. Pour la procureure de la République dans cette affaire, c'est vrai, l'aide sociale à l'enfance n'est pas exempte de responsabilité administrative ou morale, mais l'institutrice est bien la seule responsable pénale de ce drame, par défaut de surveillance, et pour ces quelques minutes fatales d'inattention, elle avait requis 6 mois de prison avec sursis.
La sécurité lors des festivals, la circulaire de l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb obligeait les organisateurs à prendre en charge sur leur budget le coût des forces de police et de gendarmerie. Les Eurockéennes de Belfort avaient ainsi vu leur facture passer de 40 à 250 000 euros. Le Conseil d'État vient d'annuler cette circulaire, d'où le soulagement du directeur des vieilles charrues.
Bonne nouvelle pour les festivals en général, mais en particulier pour les festivals associatifs. La conséquence directe, c'est une annulation de facture. On payait jusqu'à aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, un peu moins de 60 000 euros pour les frais de gendarmerie, une participation aux frais de gendarmerie. Donc si je comprends bien cette décision du Conseil d'État, on n'aura plus cette facture. Effectivement, on discutera des factures des années passées. Dans certains départements, la preuve de discernement qui avait été demandée par le ministre Collomb à l'époque n'était pas du tout appliquée. C'était 100% des dépenses liées aux forces mobiles qui étaient refacturées à des festivals. Et on a vu effectivement certains festivals voir leurs factures augmenter de 800%. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, je pense, vraiment pour tous les festivals. Et c'est un beau signe ou un élan supplémentaire pour la diversité culturelle en France.
Jérôme Tréorel, joint par Mathieu Culeron. Et à présent, Alexandra Kuhn nous donne un avant-goût des séries à découvrir cette année.
La musique a l'honneur cette année avec la première série française sur le rap. Ça s'appelle Validé, une production Canal+, avec la crime et Cool Chain. Damien Chazelle pour Netflix nous embarquera dans l'univers du jazz parisien avec Leïla Bekhti et Tahar Rahim. Et puis 20 ans après le film de Stephen Frears, Hulu ressuscitera High Fidelity avec Zoé Kravitz en disquaire branché. Plus sérieuse mais tout aussi tentante, l'adaptation de la série israélienne En traitement par Nakache et Toledano sur Arte avec Reda Kateb, Pio Marmaille et Carole Bouquet dans le rôle de la psy. Une analyste également au cœur de l'américaine The Undoing sur OCS. Nicole Kidman rattrapée par le passé de son mari Hugh Grant, tout juste disparu. Lui, c'est grâce au sang des autres qu'il évite la mort. Dracula débarque sur Netflix samedi pour une adaptation à hurler de peur et de rire. Côté suite, l'ancienne Dana Scully des X-Files s'amuse toujours autant, et nous aussi, dans la deuxième saison de Sex Education.
La masturbation est une pratique naturelle et normale.
Toujours sur Netflix. Et puis on devrait enfin savoir si Malotru est vraiment mort. Saison 5 du Bureau des Légendes avant l'été sur Canal+. Enfin, 10% reprendra du service sur France 2 pour une quatrième et dernière saison. Avec attention, rien de moins que la replay d'Alien, l'américaine Sigourney Weaver.
Et avant de vous lancer dans les nouvelles séries, ce qu'il ne fallait pas rater en 2019 est à retrouver sur franceinter.fr.
Le binge-watching en bon français ou comment rester accro, c'était le journal d'Agnès Soubiran.